89.3 FM.
À la bonne heure, jusqu'à 20 heures. La bonne heure. Je m'appelle Lever. Je vais être avec vous pour la prochaine heure. Bon début de saison estivale sur les ondes de la marge. Je sais que moi, c'est un long fleuve tranquille parce que je ne vois pas le passage des saisons à part quand je vous le dis, puisque je suis tout le temps là et le gars, il lâche pas. Fait que je prends pas de pause encore une fois cet été. L'actualité ne prendra pas de pause et les émissions que j'aime écouter qui couvrent l'actualité de plus en plus terminent leur mandat depuis quelques semaines. Donc moi, ça va me donner moins de choses à écouter. Et j'aurais moins à me dire, oh, est-ce que telle émission a parlé de tel sujet parce que je veux pas avoir l'air des copier ou je veux pas dédoubler certains sujets parce que je sais que ceux qui écoutent cette émission-ci, peut-être vous écoutez d'autres genres d'émissions semblables qui couvrent l'actualité. Fait que pour pas avoir l'air d'une émission de redite, j'essaie de, tu sais, ne pas parler de certains sujets. Puis ça, c'est fatigant parce que des fois, je prépare des trucs puis là, Olivier Niquet ou Jean-René Dufort ou Jean-Philippe Cipriani parlent du sujet puis je suis comme, bon, ben écoute, je vais remiser ça, je vais regarder ça pour mes émissions de fin d'année puis je parlerai d'autres choses. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, la cour est pleine point de vue actualité. On a commencé avec les Beastie Boys, tiré de l'album Ill Communication, la pièce Sabotage. Je vais vous parler de sabotage, d'éco-terrorisme, de terrorisme. Est-ce que les mots veulent dire quelque chose? Mais de toute manière, on finit tout le temps par pointer du doigt les antifascistes. Je veux pas vendre de punch, mais je vais parler de Nordvolt, puis ça va finir avec Mathieu Bocoté. Vous allez voir, tout va se tenir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Mathieu, puis là, ben, c'est ça. Ça donne que ça fonctionne. Sinon, j'ai quelques petits sujets aussi, mais juste, parce que je me connais, là. Moi, une intro, c'est censé être très court, puis l'introduction, des fois, c'est la moitié de l'émission. Fait que je vais m'arrêter là. Je vais tout de suite y aller en musique avec une nouveauté que j'ai fait jouer hier, mais la chanson est tellement bonne que je veux la faire jouer également aujourd'hui. Kid Kuna, ça vous tente de le voir en spectacle? Eh bien, cette semaine sera votre chance au Club Soda, parce que Kid Kuna sera en spectacle le 9 mai. Donc ça, c'est ce jeudi. Et justement, pour peut-être, point de vue communication, relations publiques, je ne sais trop, hier, il a sorti une nouvelle chanson, Marina, qui est très bonne, qui, comme le dit lui-même, c'est la toune de l'été. Si vous voulez écouter cette chanson-là en vous rendant au Beach Club, comme il l'a dit sur Facebook, eh bien, pour vrai, c'est une chanson qui est très accrocheuse. Puis quand on porte attention, il y a un message politique. Vous allez voir, c'est très, très subtil. Pas aussi subtil que la nouvelle chanson politique de Steffi Schock, Farine Five Roses. Vous allez voir, elle est déjà sur YouTube, mais je pense qu'il l'a pas encore sorti officiellement. Vous allez voir, Steffi Schock fait dans le politique aussi, dans les chansons engagées. 2024, ça va être gros. Kid Kuna, Marina, par la suite, ça va être Tibéliveau et la pièce Feel Bonne de son plus récent album sur les ondes de la marge. Toujours plus de hits. En vous souhaitant une bonne émission.
Sur les
et ça brille sur le beau linge, sur le beau monde, juste du beau. L'été sera chaud, c'est pas mal, hein? Je me créerais sur une croisière de Sunwing. Tabarnak, toutefois c'est de la merde. Toutes les tarpilles, les cornets qui s'éclatent. On décrasse, on va s'écraser. C'est plus réel à la télé. Il y a du soleil à la marina. Il y a du soleil à la marina. Il y a du soleil, il y a du soleil à la marina. Il y a du soleil, il y a du soleil à la marina.
Feel bun, feel bun. More cold, all young. More verenk, a wordy fun. Left wing, right wing. More shipwreck, a sabadir. More hipwet, a yalika. Let's go to the beach, to each his own. More shipwreck, smart to say. Put our ladder bones and ice cream cone. Yummy, yum. Masodamo, tummy, tummy, yeah. More shipwreck, a dummy, dumb, yeah. Having so much fun. I feel bun, I feel great. Putting a lap out on a monkey, put me lullaby. Du pâté à la mode. Si tu te gardes en haut au ciel, tu vas à ma trouver Dieu. C'est à cause que moi l'ai tué. Et puis on l'ai remplacé. Feel bon, feel great.
Petit Billy Vaux, gros album, des grosses tunes. Feel Bun de son nouvel album Petit Billy Vaux. Avant ça, c'était Kikuna, une nouveauté. Marina qui est sortie hier, qui est bien bonne. Ça vous tente de le voir en spectacle. Jeudi 9 mai, il sera au Club Soda. Et c'est pas mal le tour pour les deux premières chansons. Là, je vais parler pendant un petit bout. J'ai bien des extraits à vous faire jouer. Puis après ça, on va entendre deux autres chansons. Ça vous va? Ça, c'est un peu une question rhétorique, parce que, admettons, ça vous va pas, ben, vous avez peut-être un choix. Si vous écoutez l'émission en balado, vous pouvez peut-être avancer les 20 prochaines minutes pour juste entendre de la musique. Ça se peut, ça. Parce que moi, j'ai des amis personnels qui, tu sais, ont comme pris leur camp. Ils disent, moi, je t'écoute le lundi, ben, j'ai le goût d'entendre de la musique. Puis d'autres, ben, je veux rien savoir de la musique, je veux t'entendre parler de politique. Puis il y a des gens qui aiment les deux aussi, puis il y a des gens qui écoutent les deux émissions aussi. C'est ça. Fait que je suis comme, tu sais, j'ai un côté givré dans les deux émissions, mais il y a deux mandats différents. T'sais, le lundi, l'alter ego, c'est musique, retour à la maison, culture. Puis le mardi, c'est moi qui chiale. Mais je chiale pas autant que si, par exemple, vous étiez assis à côté de moi et que j'ai le contrôle de la télécommande et qu'on écoute la télé et qu'on écoute les nouvelles. Ça, je retiens de mon père beaucoup là-dessus. Chialer devant les nouvelles, c'est pour moi, c'est un sport national. J'adore ça. Ou chialer en écoutant la télé. Puis là, tu fais pause. Puis voyons, non, c'est quoi cette publicité-là? Je continue de payer pour le câble pour avoir accès, justement, à des publicités pour voir où en est le sort de la télé, là, tu sais. Moi, j'ai déjà été abonné au canal Mademoiselle à l'époque. Ma copine de l'époque, elle disait, on s'abonne-tu à Mademoiselle? J'ai dit, OK. Qui est devenu Moins et Compagnie, pour ça, je me suis désabonné. Puis là, Moins et Compagnie s'est rendu Témoin maintenant, qui est comme la contrepartie du canal Investigation. Là, si vous suivez, là, les câbles distributeurs, vous allez vous rendre compte que si vous voulez écouter une émission, on dirait que chaque chaîne maintenant a une, deux émissions québécoises spécialisées. Puis si vous voulez les écouter, ben faut que vous vous abonniez à toutes ces chaînes-là. Là, c'est comme ça devient à 2 piastres la chaîne où il y a des forfaits. Il y a des stations qui appartiennent à l'Empire québécois, d'autres à l'Empire Bell. Fait que là, c'est ça. Là, il y en a un qui a Investigation. C'est Bell. Puis maintenant, t'as Témoin. Puis là, il va avoir Paul Arcand. Il va faire une série sur le vrai négociateur, Claude Poiré, dès cet automne. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit Moins et Compagnie devient Témoin. Je suis comme ah! Fait qu'on est passé de Mademoiselle il y a à peu près 10-12 ans à maintenant Témoin. Je ferme cette parenthèse-là tout de suite parce que je suis pas venu ici vous parler de télévision. Je vous parle de... On va commencer avec ça. Les actes de vandalisme. Il faut chasser les barbares, dit Pierre Fitzgibbon. Là, j'ai entendu ça, j'ai tout de suite entendu Bruno Pelletier dans ma tête. C'est peut-être parce que je l'ai vu récemment en spectacle. Mais quand j'entends barbares, je pense au temps des cathédrales. Nordvolt, les actes de vandalisme contre Nordvolt, ce sont le fait de barbares et qu'il faut chasser, affirme le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Tommy Chouinard a rapporté, en fait, parce que hier, plusieurs chroniqueurs, bien sûr, chroniqueuses sur différentes chaînes télé, radio, ont parlé de ce qui s'est passé sur le terrain de construction de l'usine de Nordvolt. Et là, finalement, ce qu'on a appris, c'est qu'il s'agissait de bouteilles remplies d'un liquide inflammable, ouvrez les guillemets, rattaché à des mécanismes assez rudimentaires de mise à feu qui, fort heureusement, Dieu merci, n'ont pas fonctionné, a déclaré le président directeur général, le PDG de Nordvolt Amérique du Nord, Paolo Cirutti, lors d'un point de presse sur le site. Ces contenants n'avaient pas la capacité d'exploser, ont appris la presse. Ont été indiqués à la presse des sources policières. Puis là, il y avait différents titres. Il y avait de l'éco-sabotage au mordu, éco-terrorisme à la joute, terrorisme tout court. Qu'est-ce que c'était? Moi, ce que j'aime dans cette situation-là, c'est qu'on ne sait pas qui a commis ce geste sur Nordvolt. Puis il y a un autre geste de vandalisme qui a été commis chez un groupe, le Centre de valorisation en bois urbain, que je ne connaissais pas, qui est fondé en 2016. Qui a été fondé en 2016, le Centre de valorisation du bois urbain, l'acronyme est CVBU, est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif de la Montérégie dont la mission est de valoriser le bois urbain en le transformant en produit à valeur ajoutée afin d'en redistribuer les bénéfices à la collectivité. Donc, eux se sont associés avec Nordvolt. OK, il y a des arbres qui doivent être abattus. Vous allez faire quoi avec ça? Sinon, du brin de scie? Non, on pourrait revaloriser le bois. Puis, ils ont des bureaux. Puis là, les bureaux ont été vandalisés. J'ai pas trop compris, là. Il y a comme une espèce de fusil à pression, gun à eau, qui avait comme de la peinture dans une espèce de trou qui avait accès au bureau. Tu laissais une fenêtre ouverte. J'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il y a de la peinture qui a été lancée dans les bureaux de ce centre de valorisation-là, les ordinateurs et tout ça. Puis là, tu te dis, pourquoi, tu sais? Le problème avec ça, c'est qu'on sait ce qui est arrivé. En ce sens, il y a une personne ou des personnes, organisées ou non, qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Pas vraiment quand on voit justement que tu sais des bouteilles remplies d'un liquide inflammable, mécanisme rudimentaire de mise à feu, qui n'ont pas la capacité d'exploser. C'est juste pour faire peur. C'est des gens qui se disent, moi, ça va être ma manière, la violence, parce que je ne suis pas écouté. Donc moi, si je fais de la violence, je vais être plus écouté. Point de vue relations publiques, là, c'est un gros zéro. Parce que là, depuis hier, ce qui arrive, c'est Nordvolt s'en sort bien. Ils ont fait un plan de com formidable. Je pense pas qu'ils ont appelé Mirador. Monsieur Cerucci qui fait une conférence de presse, qui parlait mieux des fois que le premier ministre lorsqu'il parle aux Québécois. Je veux dire, qui dit ça représente pas le Québec. Je dis, attends, ben ouais, OK, il s'est intégré rapidement, là, monsieur Cerucci. Fait que, tu sais, point de vue relations publiques, Nordvolt, c'est 100 000 à l'heure. Les personnes, c'est ça l'affaire, c'est qu'on sait pas c'est qui. On sait pas quels sont leurs motifs. Et dans, il y a Éric Duhem qui disait vaut mieux de la mauvaise information que pas d'information partout. Mais dans cette absence de certitude-là ou ces interrogations-là, quand t'es une chaîne de télé comme par exemple RDI ou LCN et t'as des émissions où faut que tu fasses du temps sur des sujets d'actualité, si t'as pas la réponse, on va tricoter une réponse. C'est pour ça qu'on parle d'éco-terrestre. Est-ce que c'est pour ce qui est du centre d'interprétation, oui. Le centre de valorisation du bois urbain, est-ce que c'est du vandalisme? Oui. Les objets justement qui n'avaient pas la capacité d'exploser, est-ce que ça peut être considéré comme du terrorisme? Ben ça pourrait, parce que tu sais, on dit les personnes ou la personne ou les individus ou le groupe voulait peut-être les faire exploser s'ils allaient avoir des employés ou non, c'est juste pour faire. Quels sont les motifs? On ne sait pas. Mais effectivement, à commencer à utiliser des engins de la sorte qui fonctionnent ou pas, on est dans la peur. Puis moi, je traite pas avec ces manières de faire-là. Bien honnêtement, personnellement, je ne traite pas avec ces manières de faire-là. Mais on ne sait pas quels sont les motifs de cette personne, ces personnes. C'est un groupe. Là, tu sais, on a comme eu la twist écologique au mordu de politique parce qu'on se dit Nordvolt, des gens qui sont déçus de la politique environnementale du gouvernement ou la manière dont ça s'est fait ou le BAP pas BAP ou ainsi de suite. Donc on a les peut-être d'écologie là-dedans, mais tu sais, c'est-tu de l'écologie, c'est-tu de l'anticapitalisme. Il y a Luc Ferrandez qui parlait même, tu sais, de logements dans ce coin-là qui vont être de plus en plus difficile à avoir à cause de cette usine-là, parce que c'est des gens qui sont... Il y a bien des motifs qui pourraient être utilisés dans ce cas-ci. Fait que moi, je me dis que le principe de précaution devrait s'appliquer. On ne sait pas qui a fait ça, on ne connaît pas les motifs, donc on ne va pas en inventer. Mais ça a l'air que c'est ça. Faut remplir du temps là-dessus. Il y a l'honorable, parce qu'au fédéral, faut dire l'honorable. L'honorable Stephen Guilbeault, député de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Ma circonscription, moi, je reçois sa paperasse une couple de fois par mois. C'est à cause de lui que j'ai pu écouter le balado, l'impologie, là, puis inspire, réinspire. Si c'était pas Stephen Guilbeault, j'aurais pas été son papier que j'ai reçu par la poste, on n'aurait pas été écouter ça. Mais il est également ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Je vais faire par ma habitude. Moi, je dis encore les changements climatiques, mais ça a l'air qu'en français, il faut dire du changement climatique. Ça va s'en venir. Donc, Stephen Guilbeault s'est fait interroger à ce sujet. Voici sa réponse.
Je trouve ça très inquiétant. Je veux dire, dans une société démocratique, que des gens manifestent, que des gens... J'ai moi-même posé des gestes de désobéissance civile non violente. Mais là, ce qu'on voit, ça dépasse les bornes.
Oui, des gestes non violents. Ça, c'est important parce que là, vous allez entendre Françoise Boivin. Elle est au mordu de politique. Ils ont fait jouer cet extrait-là au mordu, justement. Et là, l'animateur, Sébastien Beauvais, demande à Françoise Boivin sa réaction par rapport à Stephen Guilbeault. Voici sa réponse.
C'est important dans le débat, Françoise, l'intervention de M. Guilbeault?
Ben, en tout cas, c'est drôle. Juste avant que vous le mentionniez, je savais même pas qu'il s'est exprimé sur le sujet. Et l'image que j'avais dans ma tête, c'était à tous ces délinquants, pour les appeler que ça, là, vous pouvez avoir de l'espoir, vous pourriez finir ministre de l'Environnement un de ces jours. Alors, comme quoi, hein, la désobéissance civile, ça mène à tout. Mais
la désobéissance
mais
civile
là,
pacifique, a-t-il dit, ou non-violente,
Oui. Préciser. Ça, il y a raison. Ouais. Puis pour l'instant, on est encore chanceux.
Là, j'écoutais Françoise Boivin, je me disais, mais c'est-tu moi, elle mélange des choses entre la désobéissance civile pacifique, puis commencer à mettre des engins explosifs qui, heureusement, étaient faits tout croche puis n'auraient pas explosé. Mais admettons qu'ils pourraient avoir cette capacité-là. Vous mettez vraiment dans le même panier des gens qui commettent ça et d'autres qui vont monter la tour du CN. Là, il nous parle de délinquants. Tu sais, puis elle fait regardez la comparaison. Là. Je vais juste le faire écouter, l'extrait.
À tous ces délinquants, pour les appeler que ça, là, vous pouvez avoir de l'espoir, vous pourriez finir ministre de l'Environnement un de ces jours.
En tout cas, mais c'est pas la première fois que je me dis je devrais pas me fier au mordu pour avoir de l'information justement et de se faire décortiquer la politique parce que les mordus ils devraient appeler ça les spineux pour être honnête là c'est pas des mordus de politique. Oui, ils sont mordus de politique mais c'est des spineux. C'est pas pour rien qu'il y a deux personnes qui représentent des partis fédéraux puis deux personnes qui représentent des libéraux PQ au provincial. Puis là il y a le Parti conservateur du Canada puis le NPD mais oui aussi le Parti libéral. libéral parce qu'il était aussi au Parti libéral du Canada, mais au NPD pour Françoise Boivin. Fait que c'est ça. Moi, pour moi, les mordus, ça ressemble plus aux spineux, là, comme les débatteurs, comme la joute. C'est de plus en plus, c'est ça. On va mettre des gens qui, OK, ont différentes idéologies, gauche, droite, de partis politiques. On va les mettre ensemble et on va leur demander leur opinion. Puis tu veux dire, des gens qui ont commis ce qu'ils ont commis sur le site de Nordvolt, non, je pense pas qu'ils vont finir ministre de l'Environnement, parce que je pense que la feuille de route de Stephen Guilbeault ne s'apparente pas à ce qui s'est passé en fait sur le site de Nordvolt. Fait que j'ai trouvé ça très très niaiseux comme argumentaire, mais après ça, je me dis, c'est sûr que c'est toujours moins pire que Mathieu Bock-Côté à la joute. Parce que là, quand je vous disais justement, on sait pas trop ce qui se passe, puis quand on sait pas, ben on va faire des raccourcis, on va juste arriver avec notre propre narratif, ou on va rentrer dans la gorge de cet événement-là, notre narratif. Mathieu Bock-Côté est passé maître là-dedans. Là, on parlait d'éco-sabotage, d'éco-terror. On sait pas ce qui se passe. Mais on sait une chose pour Mathieu Bock-Côté. Cette situation-là, il y a des liens avec, je vous donne en mille, les antifas. Qu'est-ce que les antifascistes ont à voir là-dedans? Bon, on écoute Mathieu Bock-Côté.
Pour les écolos radicaux, puis ça, faut comprendre, les écolos radicaux, ça touche à la mouvance d'extrême-gauche, ça touche aux antifas, ça touche à des gens qui ont, normalement, ils ont carte... Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est l'immense complaisance des médias et une partie des services policiers pour ces gens-là régulièrement.
Fait que les services policiers auraient une complaisance, ou certains services policiers auraient une complaisance avec les antifascistes, les médias auraient une complaisance avec les antifascistes, à moins que, dans la tête de Mathieu Bock-Côté, pour lui, un antifasciste, c'est pas mal tout ce qui se trouve à gauche ou est contre lui. Donc, s'il y a des gens qui sont fâchés contre ses positions, ont une tribune sur des médias, ben là, il se dit, bon, ben les médias ont des positions... avec les antifascistes. Tu sais, on comprend pas trop, mais je vous rappelle, ça, c'était à la joute, c'était hier. On parlait de ce qui s'est passé sur Nordvolt, puis là, on est passé de 0 à 100 real quick. Là. On parle plus d'éco-terrorisme, on parle d'antifascistes. Il revient sur cette mouvance-là, toujours à la joute.
Là, on a vraiment ces groupes-là, on voit jusqu'où ils sont prêts à aller, dans leur esprit. Dans leur esprit, c'est pas du développement vert ou développement durable, c'est du développement. Or, on est devant des gens qui sont des anticapitalistes radicaux, on est devant des gens qui sont très probablement favorables à la décroissance musclée. Donc, faut juste savoir que cette mouvance-là existe dans notre société et la prendre au sérieux. Mais on a la mauvaise habitude de ne pas s'intéresser à cette mouvance antifa extrême-gauche. Or, elle est capable d'aller très loin, elle se donne le droit d'utiliser de la violence.
Donc, reviens encore aux antifascistes. Puis là, vous allez voir, vers la fin de son intervention, il était avec Yasmine Abdel-Fadel et Gaétan Barrette. C'était animé par Paul Larocque, là, la joute, pour ceux qui ne connaissent pas à TVA. Et là, à la fin, ça, ben, personnellement, je trouve que ça chirait assez solide. Vous allez voir du Mathieu Bock-Côté pur jus. Je vous laisse écouter l'extrait, après ça, je vous reviens avec ça.
Mais il faut oser les mots. Éco-terrorisme, le terme n'est pas mauvais. Et ensuite, il faut savoir quelle est la mouvance, l'extrême-gauche et les antifas. Puis peut-être que si on prenait la peine de s'intéresser à ces gens-là, je lisais, si je peux me permettre, dans la presse il y a quelques jours, que la GRC s'inquiétait apparemment des milices oui. d'extrême-droite violentes au Canada. Mais moi, j'ai fait un papier dans le journal en disant « Et les antifas, ça vous intéresse pas aussi? » Parce que moi, les grandes milices d'extrême-droite, je les vois pas au Canada. Mais les antifas, je les vois agir depuis longtemps et je reconnais leurs pattes dans cette action.
C'est malade, là. Ça, c'est malade, là. Puis c'est drôle parce que ils en ont parlé aussi dans le Journal de Montréal, Sarah Maud Lefebvre. Il y a eu une entrevue également avec Michel Jean sur ces milices armées d'extrême droite dans la mire de la GRC. Mais juste l'argument de Mathieu Bock-Côté qui me fait penser un peu à un argument d'un enfant, tu sais. Moi, si je le vois pas, ça n'existe pas. Tu sais, le pique-bou, là, tu mets tes mains dans les yeux. Oh, t'es-tu là? Oh, t'es plus là. Oh, t'es pas là. Oh, là, t'es là, t'es apparu. Dans la tête de Mathieu Bock-Côté, les milices d'extrême droite, ça n'existe pas parce qu'il les a pas vus. Mais les antifas existent, puis ça, faudrait combattre ça. Alors que t'es comme, pourquoi tu parles d'antifascistes? Parce que dans ta tête, c'est des antifascistes qui ont fait. Il doit avoir des réponses. D'après moi, c'est parce qu'il est tellement connecté. Je sais que il commente l'actualité en direct de l'Europe. Certains diront, ben tu sais, il est pas sur le terrain, donc pourquoi est-ce qu'il nous parle d'actualité au Québec? Mais même quand il était sur le terrain, son argumentaire tenait pas plus la route. Fait qu'ils sont dans un autre fuseau horaire où ici, au moins, il est constant. Il dit toujours la même chose. Mais cette phrase-là, moi, m'a fait sourire.
Parce que moi, les grandes ministres d'extrême droite, je les vois pas au Canada. Mais les antifa, je les vois agir depuis longtemps et je reconnais leur patte dans cette action.
Fait que la police, mais, puis, encore une fois, ça, c'est le même narratif. Si la police, la GSC, dit, ben, on enquête sur des groupes québécois extrémistes, armés qui souhaitent renverser les gouvernements puis qui seraient bien structurés, aussi bien structurés que le crime organisé. Si la GRC nous dit ça, j'imagine que Bocoté va nous dire « Ouais, mais ça, c'est des policiers. La GRC, c'est parce que ils ont des vues. Ils voient les antifascistes d'un bon œil. C'est ça qu'il va nous dire? » Non, ce qu'il nous dit, c'est on discrédite ce que la GRC nous dit présentement parce que moi, j'en ai pas vu de l'extrême droite. Ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est pas au Québec ou c'est pas au Canada. Fait que si ça n'existe pas, ben on n'a pas besoin d'enquêter là-dessus parce que c'est Mathieu Bocoté qui nous le dit. Mais lui, il a vu des antifascistes. Là, tu dis, les antifascistes, qu'est-ce qu'ils font, eux, d'habitude? Ils sont contre les fascistes. Fait faut être fâché contre les antifascistes. Qui sont fâchés contre les antifascistes? Les fascistes? Je sais pas. Mais je vous répète, là, il nous parlait d'antifascistes pour ce qui se passe à Nordvolt. Alors que, je veux dire, il y a rien qui nous dit que c'est des antifascistes qui ont fait cela. Mais bon, tu sais, on n'est pas à une redite près. Justement, je voulais un extrait du Journal de Montréal, toujours, parce que moi, c'est ça le problème que j'ai avec le Journal de Montréal, c'est qu'on met beaucoup de temps, et le journal met beaucoup de temps aussi sur ses chroniqueurs, chroniqueuses, dont plusieurs écrivent des chroniques aussi rapidement que Kendrick Lamar fait des disses par rapport à Drake. La seule différence, c'est Drake, même quand il fait ça dans la rapidité, les tunes sont bonnes. C'est ce qu'on me dit. Moi, je les ai pas encore tous écoutés. J'ai écouté juste Euphoria. Mais même quand il fait ça rapidement, c'est bon, le beat est bon. Mais d'autres chroniqueurs, chroniqueuses, des fois, ça a l'air d'être une redite, un peu comme les livres de Mathieu Bocoté. Peu importe que le titre change, on dirait que c'est tout le temps le même livre. Les chroniques aussi, ils ont des thèmes qui leur sont propres à eux, mais c'est parce qu'ils creusent jamais assez. T'sais, une chronique, c'est quelques petits paragraphes, c'est pour nous faire fâcher, puis après ça, on passe à d'autres choses, puis ça nous donne des clics. Alors que c'est dommage que même l'algorithme sur le site du Journal de Montréal, du Journal de Québec, nous met souvent l'accent sur justement des titres accrocheurs de chroniqueurs, chroniqueuses, alors qu'il y a des articles de journaux du Journal de Montréal, du Journal de Québec qui sont bien faits, mais ça, des fois, ça passe un peu dans le beurre. Puis dans le même journal dans lequel Mathieu Bocoté écrit, ben on apprend que certains des groupes justement qui sont visés par la GRC, inspirés de milices armées américaines, ah ça doit être ça, parce que ça vient des States, fait que ça vient des States. Tu sais, c'est ce qui vient des States qui devrait être combattu, c'est Black Lives Matter, c'est les gens qui manifestent sur des campus montréalais, québécois, canadiens. Tu sais, tout ce qui vient des States, les woke, ça vient des States, ça faut les combattre. Mais ça, je sais pas, ça ils voient pas ça passer. Puis le phénomène, Sarah Maud Lefebvre nous mentionnait ici dans son article du 2 mai dernier, avec l'ingérence étrangère, la priorité de l'équipe intégrée de la sécurité nationale, le EISN de la GRC en Québécois nous disent quoi? Que les groupes qui ont des idéologies politiques influencées par des courants issus des États-Unis, on parle par exemple de personnes qui ont une méfiance envers les gouvernements en place et qui aimeraient peser sur le piton reset. C'est drôle parce que d'habitude quand on parle du grand reset, on nous dit que c'est les gens de gauche qui veulent faire le reset. Fait que si il y a des gens qui sont très à gauche qui veulent faire le reset ou des gens à droite qui veulent peut-être faire le reset, très très à droite je devrais dire, veulent faire le reset, mais pour pas que ça paraisse, nous disent que c'est des woke qui veulent faire le reset puis George Soros puis le Fonds monétaire international, puis le FMI avec l'ONU. C'est pas. Mais bon, eux aussi, ils trippent sur Reset, puis ils voudraient commencer d'une nouvelle façon, avec une nouvelle façon de gouverner. Puis c'est drôle parce que toujours, justement, à TVA, Michel Jean a interviewé quelqu'un du CFIR. Le CFIR, en fait, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation du cégep Édouard Montpetit, ben il a interviewé justement à ce sujet Martin Geoffroy du CFIR. Là, j'imagine que Bocoté va nous dire cette personne-là est discréditée parce que il s'occupe en fait de... Attends, le terme, comment ils ont appelé ça encore sur les presses de l'Université Laval, entre autres, le CFIR, en fait, parrainait certains livres qui ont été écrits, dont le livre Génération MBC, Mathieu Bocoté, les nouveaux intellectuels conservateurs. Fait que j'imagine que cette personne-là n'est pas neutre. Elle va pas nous parler de Mathieu Bocoté, mais retenez les termes et surtout les idées véhiculées par ces groupes d'extrême droite. Ça va vous sonner des cloches avec quelques chroniques que Mathieu Bocoté a écrites tout récemment. Fait que c'est parce que lui, il voit pas de l'extrême droite. Fait que peut-être parce que lui, ce qu'il avance comme idée est justement véhiculé par l'extrême droite. Puis pour lui, il trouve ça bien normal, chiller entre blancs. Je veux dire, la minorité historique francophone, où que l'homme est menacé, puis ils veulent nous rabaisser à une terminaison de... Comment qu'il avait dit ça encore, là, qu'on voulait être des larves, parce que on veut juste peut-être se dire que le modèle masculin actuel, comme il est véhiculé chez certaines personnes, est toxique. Ça, il est bien fâché par rapport à ça. Fait que vous allez voir ce que ça dure 2 minutes. J'ai le goût de vous faire jouer au complet parce que je trouve ça très intéressant. C'était le 2 mai dernier à TVA. C'est Michel Jean qui l'interviewait. Martin Geoffroy du Céphir. Et on peut pas ne pas faire des parallèles avec ce que Bocoté écrit.
Si les policiers s'intéressent à tout ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose quand même, non?
Oui, il se passe quelque chose et depuis longtemps. Nous, ça fait longtemps qu'on surveille ces groupes-là. Ce sont des groupes extrémistes d'une tendance qu'on appelle les « active clubs ». Les « active clubs », ça vient des États-Unis. Et oui, ça a une certaine structure, mais c'est difficile à identifier pour les policiers parce que c'est plutôt des réseaux sur les réseaux sociaux qui sont internationaux, qui viennent des États-Unis, de France, et qui encouragent en fait de très petits groupes d'extrémistes de droite, souvent des néo-fascistes, à s'entraîner à vivre un style de vie « straight edge », qu'on appelle, c'est-à-dire pas de drogue, pas d'alcool, et s'entraîner pour se battre avec d'éventuels ennemis. Et ce modèle-là qu'on a pris sur les milices, mais ça vient en fait de ce modèle d'active club-là. Et là, il y a un réseau international qui est organisé, qui encourage des petits groupes locaux à créer ce type de club-là, et en les nourrissant d'idéologies néo-fascistes, pour se préparer pour une éventuelle chute de la civilisation occidentale. Ce sont des groupes qu'on appelle des groupes accélérationnistes. Donc, ils veulent accélérer la fin du régime démocratique pour le remplacer par un régime, je dirais, suprémaciste blanc. On a des groupes au Québec qui existent depuis longtemps, qui sont fondés sur ce modèle-là des Active Clubs. Par exemple, Atalante à Québec, qui est un groupe qu'on a souvent entendu parler, qui s'entraîne. Mais là, ce qui arrive de nouveau, c'est que depuis 2018, ces Active Clubs-là, ils avancent un peu masqués. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des groupes qui se présentent pas nécessairement comme des groupes néo-fascistes et qui se présentent plus des groupes pour monter un style de vie, être en forme, des groupes un peu masculinistes, tu sais, qui vont, après ça, arriver avec des idéologies plus néo-fascistes. On a des groupes qui se présentent comme des groupes nationalistes identitaires comme Nouvelle Alliance, qui sont des groupes qui pourraient être derrière ces milices-là aussi.
Mais, malgré cela...
Parce que moi, les grandes milices d'extrême droite, je ne les vois pas au Canada. Mais les antifas, je les vois agir depuis longtemps et je reconnais leur pacte dans cette action.
Je vous dis, là, il est loin, il est dans un autre fuseau horaire, mais la manière, le modus operandi de ce qui s'est passé chez Nordvolt, c'est des antifascistes. Qu'est-ce que les antifascistes ont à voir avec Nordvolt? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Peut-être qu'il sait des choses qu'on sait pas. C'est ça l'affaire. Parce que des fois, c'est pas ce que tu sais, ce que tu peux prouver. Ça, c'est des vrais chroniqueurs là, qui vont écrire seulement ce qu'ils peuvent prouver, puis d'autres qui peuvent un peu dire n'importe quoi, puis qui vont se cacher sous le parapluie de la liberté d'expression, ils vont nous dire « Non, l'extrême droite, ça n'existe pas. » Mais tu sais, l'extrême gauche, ça existe aussi. Il y a des gens qui veulent s'attaquer, puis on l'a vu là quelques années, là, voulaient s'attaquer aux lignes d'Hydro-Québec, des lignes haute tension, puis la police aussi trouvait inquiétante la montée, mais les actions de certains groupes d'extrême gauche. Ça, je ne nie aucunement cela. Le problème, c'est que quand on parle aussi des groupes d'extrême droite, il y a des gens qui... Je sais pas s'ils se sentent visés. Je sais pas si Mathieu se sent visé. Parce que vous écoutez ce que Martin Geoffroy dit, puis c'est sûr qu'il parlait de straight edge. Là, je pense pas que Mathieu Bocoté est straight edge, loin de là. Il nous parle toujours des plaisirs de la chair et du bon vin. Léa Salamé sûrement dirait que c'est des gens qui sont chiants. En tout cas, je passe peut-être trop de temps sur Twitter, mais Léa Salamé, elle échappe solide, justement. Mais toutes les autres actions de certains de ces groupes-là, des fois, se regroupent avec des visions de Mathieu Bocoté. C'est pas parce qu'il dit pas le terme grand remplacement qu'il utilise une autre terminologie qui sonne un peu pareil qu'on pourrait pas dire que les vues de Mathieu Bocoté n'ont pas tendance à voir avec la réimmigration, tu sais. Il peut pas nous dire l'extrême droite ça existe pas puis il nous parle pas d'Atalante Québec, tu sais. Ces groupes-là existent. Quel est le réel impact de ces groupes-là? Des gens vraiment crinqués, ils vont en avoir sur tous les spectres. Le problème, c'est comment ces gens-là s'organisent, ils sont combien. Puis maintenant, il y en a beaucoup qui sont capables de justement être peu nombreux, d'être très peu visibles, faire leurs affaires entre eux, puis attendre que tout pète ou ils veulent justement, tranquillement, pas vite, attendre une brèche dans... comment je vous dirais ça? Attendre une brèche dans un mouvement social X, on peut penser aux mesures sanitaires, tu sais. Il y a des gens qui ont profité de l'écœurantite de la population pour bien sûr se faire de l'argent sur le bras et le dos surtout de gens qui croyaient dur comme fer que leur liberté, c'est très important. Mais qui, après ça, disait, hey, c'est vraiment important, les libertés. Nous, on va défendre vos libertés. Envoyez-nous de l'argent. Moi, quand ça commence toujours comme ça, là, envoyez-moi de l'argent, on va vous défendre. T'es comme, non, il y a des gens qui profitent de vous, malheureusement. Peu importe l'idéologie, là, à gauche comme à droite, ultimement, il y a des gens qui profitent de vous, qui veulent juste votre cash. Puis il y a des gouvernements aussi qui pensent comme ça. Puis il y a des entreprises qui pensent comme ça. Mais c'est ça. Je l'écoute souvent, Mathieu. Hein. Je l'écoute souvent. Je l'écoute à la radio. Je l'écoute des fois de temps en temps sur CNews. J'ai lâché un peu CNews parce que ça devient redondant. C'est un peu comme Radio X. C'était comme, je sais à la base, en voyant les actualités le matin, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à tel et tel sujet. Quand ça devient redondant, moi, je change de poste. J'essaie d'écouter d'autres choses. Après ça, quand ça devient redondant à un autre poste, je rechange de poste. Je varie ma consommation d'informations. Mais Mathieu, c'est comme un petit plaisir coupable. Je le réécoute tout le temps puis je me dis, comment il va pouvoir... avec, bien sûr, sa verve, avec ses capacités de tribun, à spinner ça pour que ça soit encore passable dans les médias ici québécois. Il se lâche un peu plus lousse à CNews. Fait que des fois, il y a certaines rhétoriques qui sont plus que rentrent dedans en France. Ici, il y a encore une espèce de petit vernis de respectabilité, tu sais. Puis parce qu'on est habitué de le voir partout, puis tu sais, de temps en temps, il blague, puis il est comique. Puis bon, on le voit depuis longtemps. Puis ben c'est Mathieu Bocoté. Puis tu sais, il est souverainiste. Puis dans le fond, tu sais, il aime sa patrie, il aime sa nation. Puis non, il veut pas vraiment le grand remplacement, mais il s'inquiète non pas de toutes les religions, mais d'une en particulier. Puis ça, il va toujours taper sur le même clou. Puis de plus en plus, il tape sur ce clou-là. Puis j'ai le goût de finir avec un extrait de Manal Drissi avant d'aller en musique avec Rose et leur pièce 5 minutes pile. Manal Drissi qui réagit justement à une chronique de Mathieu Bocoté où là, c'est plus que fort en café, tu sais. Je peux comprendre que Mathieu veut défendre le fait français au Québec. Puis j'en suis. Mais commencer à s'attaquer à l'immigration en disant que le français recule dans les classes à cause de populations immigrantes dans ces classes-là, encore une fois, c'est la même modus operandi qu'il l'a fait avec Northvolt. « Ah oui, je reconnais les antifascistes. » Ça sort d'où, ça? On sait pas. Mais il a ses têtes de Turcs préférées, l'immigration, les musulmans, les antifascistes, les woke, les toilettes également non-genrées. Ça, c'était drôle, d'ailleurs, parce qu'il était bien fâché que pendant... puis on n'a toujours pas prouvé là cette photo, mais mettons, c'est réel. Là. L'image de gens qui priaient, justement, à McGill. Il y avait les hommes en avant, les femmes en arrière. C'est comme, mais là, c'est quoi? Ils veulent la ségrégation des hommes et des femmes. Je trouve ça drôle. Là-dessus, sur la région, il est bien fâché qu'on sépare les hommes puis les femmes. Mais les toilettes, il faut séparer ça. Mais bon, hein, on est tous le curé de quelqu'un d'autre. Justement, Manal Drissi, sur Instagram, revenait sur la chronique de Mathieu Bocoté qui, lui, dans sa tête, s'il y a des immigrants dans les classes, c'est à cause d'eux si le français recule dans les classes. T'es comme, mais tu sors ça d'où, Mathieu? Est-ce que c'est ça de la xénophobie? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Mais je trouve que Manal le disait tellement mieux qu'au lieu de commencer à paraphraser ou avoir la même idée qu'elle, pardon, je vais vous la faire jouer au complet. Par la suite, ça va être Rose et 5 minutes pile sur les ondes de la marge, toujours plus de hits.
Moi, je lis jamais Mathieu Bocoté, OK? C'est contre mes valeurs. Il y a des gens qui insistent pour me persécuter en DM. Merci, Rime. Qui m'envoie la plus récente citation de Mathieu Bocoté qui dit que le trop grand nombre d'enfants et d'adolescents issus de l'immigration dans les classes font qu'il y a une minorité de Québécois francophones et ça participe à l'effondrement du français. Mathieu, t'es con ou quoi? C'est vrai que c'est rhétorique comme question, mais les enfants et les adolescents issus de l'immigration qui vont à l'école publique québécoise post-loi 101, tu penses qu'ils étudient en quelle langue? Tu penses qu'ils vont à l'école en arabe, Al-Hamar? Ce sont des Québécois francophones, ils habitent au Québec. Ils vont à l'école en français, c'est des Québécois francophones. Ce que tu veux dire, je pense, c'est que ça participe à l'effondrement du Québec blanc. C'est ça que tu veux dire, ça te manque le Québec blanc. Ben, je trouve que pour quelqu'un que ça lui manque le Québec blanc, Mathieu, t'élèves pas beaucoup d'enfants blancs dans notre beau Québec. Parce que t'es en France en train de lécher les couilles de l'extrême droite. Tu reviens élever des enfants blancs au Québec, Mathieu, si tu y tiens tant. Vas-y, remplis-les les classes.
Chaque fois que je me perds et pense à toi, j'ai passé tout l'hiver dans tes deux bras. T'es parti en même temps que le froid.
tiré d'un album de reprise de chansons de Paul Naref qui s'appelle « Il était une fois Paul Naref ». C'était sa chanson « Qui a tué grand-maman » reprise par Pomme que j'aime vraiment beaucoup. J'aime Pomme parce que toutes les reprises qu'elle fait, elles sont bonnes. Puis cette reprise-là particulièrement, je la trouve vraiment le fun, donc je l'écoute beaucoup ces temps-ci. Michel Polnareff, donc c'est ça, un album de ses plus grands hits repris par des artistes. Il y a même Alexandra Srinsky qui reprend une chanson au piano sur cet album-là. Avant ça, c'était le duo Rose, 5 minutes pile de l'album Virer nos vies. Je vous invite à aller lire le 5 mai dernier dans la presse, Alice Girard-Bossé a écrit un texte « L'absence de compostage dénoncé dans les marchés publics de Montréal ». Des affaires auxquelles tu t'attardes plus ou moins parce que tu penses que c'est déjà un acquis. Moi, personnellement, je pensais que le compostage se faisait dans les marchés publics, dont le marché Jean Talon. Puis ça a l'air que non. Et ça prend des gens qui font de la désobéissance civile pacifique pour aller, donc là c'est le groupe Mère au front Montréal, puis l'Association québécoise Zéro Déchet, se sont rendus au marché public Jean Talon dimanche. Donc ça, ça a été publié le 5 mai. Fait que je retiens 2 plus 5 moins 4, c'était en fin de semaine, pour justement informer la clientèle d'une situation qu'ils jugent inadmissible, c'est-à-dire, ben il n'y a pas de compostage qui se fait là. On nous parle bien sûr des actions qu'on peut faire à la maison, du compostage, puis plusieurs municipalités où il y a des gens qui ont hâte de faire du compostage. Mais là, dans ce cas-ci, tu te dis, attends, t'es dans un marché public, un marché Jean Talon, où justement les matières organiques, c'est ce qu'on vend. Puis à la fin de la journée, ce qui peut pas être vendu, ce qui doit être jeté, c'est pas envoyé au compostage. Fait qu'article super intéressant où ben ça prend des gens qui vont faire des activités de sensibilisation puis seulement ça se ramasse dans les médias comme ça parce que sinon ben ça va faire des gens comme moi qui se disent ben ça c'est déjà réglé, je veux dire il y a du compostage à cet endroit-là. Non, il y en a pas. Et là c'est là qu'on apprenait justement que les entreprises du marché Jean Talon génèrent autour de 500 tonnes de déchets par année selon les estimations de la Société des marchés publics de Montréal, du nombre environ 340 tonnes sont des matières organiques. Fait qu'on pourrait, s'il y avait une collecte de compostage à cet endroit-là, ben rattraper 340 tonnes de matières organiques. Ça, c'est juste pour le marché Jean Talon. C'est quand même beaucoup. Puis là, on nous parlait justement que il y avait des espaces où les marchands pouvaient aller porter leur matière pour que ça soit récupéré ou revalorisé, mais que ça atteint pas les cibles dans ce cas-ci. On parle, je pense, à peu près 16 tonnes là, selon l'article. Gros chaleur, ça doit être sûrement des antifascistes, là, parce que j'écoutais Mathieu Bocoté, je présume que Mère au front, puis l'Association québécoise Zéro Déchet, ces tactiques-là sont des tactiques antifascistes. Non, mais plus sérieusement, je suis content qu'il y ait des gens qui se mobilisent là-dessus pour faire avancer des causes qui sont plus que nobles. Et surtout, l'argument est bon. On parle du compostage, de la collecte sélective dans le résidentiel, dans le commercial, comment c'est important. Ben, ce serait le fun que les bottines suivent les babines, pour ce qui est des entreprises qui ont un impact encore plus grand que mon bac à moi. 340 tonnes de matière organique par année qui pourrait être compostable, ça commence à faire beaucoup de choses. Je vous parlais tantôt que j'écoute de moins en moins Radio Week, mais comme je commençais à travailler aujourd'hui à midi, en déjeunant, je me suis dit, bon, je vais en écouter un peu. Des fois, se comparer aux États-Unis, ça me fait sourire parce que on a l'impression, quand on écoute Radio Week, que Québec, c'est tellement important. La ville de Québec, c'est tellement important. Puis je sais que c'est important. Puis je suis content. Une chose que je dois dire, là, une petite parenthèse que je dis souvent, la radio permet une proximité avec des villes qui, sans les radios, seraient beaucoup moins visibles dans les autres sphères médiatiques parce que les journaux sont tous en train de mourir. La télé se centralise de plus en plus. Vous écoutez CBC, CTV, Global, c'est souvent très centralisé avec ce qui se passe à Toronto. Pour ce qui est des marchés francophones, c'est souvent très centralisé à Montréal, également aussi à Québec. Mais tu sais, bien des radios, bien ces sujets qui passeraient dans le beurre, si les radios sur les différentes stations à la grandeur du Québec n'était pas là, bien des trucs qui passeraient dans le beurre. Cela étant dit, que Dominique Moret fasse une comparaison avec des sondages qui ne se font pas à la mairie de Québec et ce qui se passe présentement aux États-Unis, ça me fait rire un peu.
Bravo d'ailleurs aux médias ce matin, vous continuez la tradition, pas de sondage à non. L'hôtel de ville, alors qu'aux États-Unis, sur la présidence américaine, tu as à peu près 15 sondages par jour. Au fédéral ici, tu en as 2 par semaine à peu près.
On est rendu.
T'as Palace, t'as Nanos, t'as Angus Reid, t'as Léger. Il y en a partout, sauf à Ville de Québec.
Ça rentre dans deux narratifs. Le narratif, la Ville de Québec, je sais que les élections sont pas tout de suite. Je sais qu'il y a une présidentielle dans quelques mois aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sondages. Puis juste la population des États-Unis versus celle de la Ville de Québec, c'est un peu différent. Ce qui se passe présentement, il y a du mouvement aussi beaucoup au Canada. Les élections vont être annoncées quand? 2024, 2025? Fait que c'est sûr qu'il y a des sondages parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient du mouvement. Pour ce qui est de Québec, là, c'est le narratif de les médias fonctionnent avec Bruno Marchand, c'est toute une clique, puis ils veulent pas que vous sachiez la vérité. Alors que, c'est juste qu'ils feront pas des sondages à chaque semaine ou à chaque mois sur la Ville de Québec. C'est Bruno Marchand qui est là présentement. Les oppositions commencent à se former, certains se regroupent. Il y a pas encore de candidat ou candidate clair qui pourrait affronter Bruno Marchand aux prochaines élections. Puis le dernier sondage, c'est un sondage de mi-mandat qui remonte au 6 novembre 2020. Journal de Montréal, Journal de Québec en parlait également. Sondage demi-mandat, baisse marquée d'autres satisfactions envers Bruno Marchand. Près de la moitié des citoyens souhaitent un changement à la mairie. Fait que c'est pas que les médias en font pas, c'est juste que comparer la Ville de Québec avec les États-Unis, c'est un peu fort de café. Parlant de mairie, si vous connaissez pas le maire Jeremy Levy ou Jeremy Levy, je crois qu'il dit, il doit le dire en anglais, bien sûr, c'est le maire d'Hampstead. Déjà, on avait l'ancien maire d'Hampstead, William Steinberg, qui, lorsqu'il avait parlé de la loi 21, qui mentionnerait que la loi 21 serait un nettoyage ethnique, c'est plus qu'un fort de café. Mais là, on dirait que la tradition se poursuit avec Hampstead. Là, ils ont le maire Levy qui tweet par rapport aux Gazaouis, comme quoi les Gazaouis auraient des valeurs incompatibles avec les nôtres, nous, Canadiens, et donc le Canada devrait reconsidérer son programme de visa temporaire pour les habitants de la bande de Gaza. C'est comme si, bon, OK, d'accord, c'est votre vision, mais je ne la partage aucunement. Puis je suis comme, pauvre Hampstead, quand est-ce que vous allez lire un maire qui comme a de l'allure? Parce que là, ces temps-ci, depuis les dernières années, les déclarations incendiaires, ça vient tout le temps de la mairie d'Hampstead. Puis je suis comme, Je suis peiné pour eux. Mais bon, à quand un sondage à la mairie d'Hampstead? S'ils en font aux États-Unis, pourquoi pas Hampstead? Il y a François Legault qui justement parlait de ce qui se passe sur le campus de McGill. Puis là, je sais pas, je pense que François Legault a un téléphone rouge avec le SPVM ou... Pour quelqu'un qui nous parle de champ de compétences, on dirait qu'il ne comprenait pas les compétences, le champ de compétences du premier ministre du Québec versus le SPVM. Mais on écoute un extrait de la conférence de presse du 2 mai dernier.
Vous avez parlé de McGill cette semaine. Le maire de Hampstead a écrit que les Gazaouis semblent avoir des valeurs qui sont incompatibles avec les nôtres, qu'on devrait ralentir sur l'accueil de ces gens-là au Canada. Est-ce qu'il est allé trop loin dans ses propos? Puis est-ce que tout ça est en train de déraper, en fait? Ouais.
Ben d'abord, concernant le campement de McGill, c'est un campement qui est illégal. C'était même dans la décision d'hier. La loi doit être respectée. Donc, moi, je m'attends à ce que les policiers défassent ces campements-là qui sont illégaux. C'est ce que McGill a demandé.
Là, voyez-vous, il n'a pas répondu à la question de Marie-Michèle Sioui du devoir, donc elle lui a reposé. Il avait pas l'air de trop vouloir répondre. Puis je dis, mais pourquoi ne pas vouloir répondre? Il veut-tu pas se mettre Hampstead à dos? Je trouvais ça étrange, mais finalement, il a dit non, je suis pas d'accord.
Le Hampstead est allé trop loin en disant que les Gazaouis ont des valeurs incompatibles.
Je suis pas d'accord avec lui.
Je veux pas commenter. Tu sais, ça me fait, tu sais, son réflexe premier était de ne pas commenter ça, alors que c'est tellement facile de dire « je suis pas d'accord avec lui ». Juste dire ça, tu sais, « je suis pas d'accord avec lui ». Non, je veux pas commenter. Il a répété en anglais que, justement, c'était illégal.
« My impression is that you are interfering with the judge's decision yesterday. Can you clarify? »«
If you read the decision, they say clearly that it's illegal. » So it was asked by the students. So the answer about the request of the students. But right now, the request from McGill is very clear. It's clear for me that it's illegal, and we have to respect the law.
Donc, la prochaine fois que François Legault va nous parler de respecter les champs de compétences fédérales, provinciales, on pourra lui rappeler la fois où il a demandé au SPVM d'intervenir sur le campus de McGill. Mais bon, c'est comme je le disais la semaine dernière, c'est comme quand t'écoutes Survivor Québec, t'écoutes des candidats qui pointent du doigt d'autres candidats sur une manière de faire, de jouer. Ils en disent, je suis pas d'accord avec sa manière de faire. Puis tu dis, ben on te voit jouer toi aussi, puis tu conspues aux autres ce que toi-même tu fais. François Legault dans ma tête est le meilleur exemple. Pour ceux qui écoutaient mon émission hier, je parlais justement, j'ai ouvert plusieurs parenthèses hier, dont une parce qu'on s'est ramassé aux Galeries d'Anjou, là, longue histoire courte, et on a vu des manifestants au Rona d'Anjou. Ah, oh, une manif. Puis après ça, on a vu dans la presse le lendemain qu'il y avait un lockout des employés d'Anjou, puis que la partie patronale offrait 1,5% d'augmentation, puis que, comme je disais, HEC Montréal, on m'a appris que si les augmentations sont plus basses que le coût de la vie, ben l'année d'après, quand tu vas travailler pour moindre que ce que tu travaillais présentement. Fait que je comprends les employés syndiqués d'être fâchés des propositions patronales. On manifestait le samedi. Les patrons ont dit à De Rona, Anjou, dit d'accord, bon, on ferme. Vous êtes en lockout, puis j'espère que ça va bien se finir. Puis quand je voyais ça aller, toute cette vision justement de, tu sais, ah ben, la ministre de l'Habitation du Ranceau avec, ben là, s'ils sont pas d'accord avec le locataire, ils ont juste à donner le propriétaire puis investir en immobilier. Toute cette vision-là de se dire, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez la chance de travailler plus, de devenir propriétaire. C'est à vous, justement, de créer votre propre richesse. Puis tu dis, tu sais, il y a peut-être des conditions socio-économiques, il y a peut-être des facteurs qui font en sorte que c'est pas nous nécessairement qui peuvent voter notre propre salaire, par exemple. Puis je me suis rappelé un commentaire du ministre des Finances, Éric Girard. Rappelez-vous, en 2023, puis je vais finir avec ça, en 2023, le 21 mars 2023, il était au Téléjournal de Québec avec Bruno Savard. Et là, Éric Girard nous parle des baisses d'impôts. Et là, M. Savard nous dit, oui, mais ces baisses d'impôts-là, pour les gens qui sont moins fortunés, qui font pas beaucoup d'argent, ils verront pas vraiment de différence, ou très peu. Et là, c'est la vision d'Éric Girard de... Puis vous allez le voir, là, je vais faire jouer l'extrait à la fin, tu sais, qui nous dit, oui, mais tu sais, il y a rien qui les empêche de faire 40 ou 50 ou 60 000 $ l'année d'après. Et ça, c'est une vision que je constate chez plusieurs députés de la Coalition Avenir Québec. C'est parce que s'ils font tant, c'est parce que c'est eux qui ont décidé de faire tant. Ils ont juste à faire plus l'année d'après. Puis quand on parle de gens qui sont déconnectés de ce qui se passe présentement, ben ça, je pense que c'en est un bon exemple. Et j'avais juste le goût qu'on se remémore ça. Je vous laisse par la suite avec London Café. Sur ce, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Dans l'immédiat, la personne qui gagne, je vais dire 24 000.
T'sais, pour oui.
Sortir du barème du 20 000. Non seulement ça apparaîtra pas beaucoup sur son budget, mais en plus, elle n'aura pas accès davantage à du logement abordable, parce que là,
mais la technologie est changée complètement. Cette personne-là ne paie déjà pas beaucoup d'impôts. Alors, c'est certain, par exemple, si vous prenez 30 000, la réduction de 100 $ mais à 30 000, vous payez pas beaucoup d'impôts, là. Fait que le 100 $ en proportion, c'est plus élevé. Mais ce qui est important, c'est que c'est permanent. Le 100 $ là, vous allez l'avoir l'an prochain. Vous allez l'avoir l'année d'après.
Il manque plus que ça par mois, probablement.
Oui, mais il n'y a rien qui vous empêche de gagner 50 000 $ l'an prochain. C'est dynamique. C'est une baisse d'impôts permanente qui va bénéficier 4,6 millions de personnes.
On inspire, on réinspire. On inspire, on réinspire.
On se fait carrément brainwasher, ça n'a pas de sens pour vrai.
Ans après leur premier album live au Théâtre Outremont, le groupe Manège revient aux sources pour un concert célébration le 30 mai prochain. Une occasion unique de revoir la formation sur scène en compagnie de plusieurs invités et d'apprécier ce rock progressif qui n'a rien perdu de sa vitalité. Billets en vente sur théâtreoutremont.ca, section spectacle. Entrez, découvrez, vibrez à l'Outremont.
Mais c'est la grande finale de la 28e édition des Francouvertes, présentée par SiriusXM. Avec Soleil Launière, SNCH, Loïc La France et la participation de Lou-Adriane Cassidy et Thierry Larose. Soyez de la partie au Club Soda ou en ligne pour déterminer qui repartira avec les honneurs. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com.
Allô, c'est Robert Robert, vous écoutez CISM.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.